Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors comme chaque semaine, tu vas découvrir ici un portrait de coureur inspirant, tu vas bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique, et tu bénéficieras également d'un bon plan matos pour rester motivé, tout cela avec la star d'RMC Running, celui que tout le monde nous envie. Yoann Durand, membre de l'équipe de France de marathon, salut Maître Yodu.
Salut Benoît, salut à tous, ça va?
Tu sais que je suis en route pour mon objectif, hein. Objectif c'est que fin 2023, chaque personne que tu croises t'appelle Yodu, Maître Yodu.
Non mais tu sais que donc là, pour dire la vérité, je suis au CERS de Cap-Breton.
Ouais.
Et tu sais comment m'appelle les kinés?
Maître
Yodu. M'appelle Yodu.
Ah,
non
j'adore.
Mais pour l'instant il n'y a pas Maître, mais je vais progressivement leur mettre dans le cerveau qu'il faut m'appeler.
Alors,
Maître.
La question c'est, est-ce qu'on t'appelait Yodu avant RMC Running?
Ouais, ça m'est arrivé.
Un petit
arrivé.
Peu, quand même.
Ouais, ouais.
Ah,
parce
ouais.
que il y avait Yoann Koval et Yoann Durand, donc il
ah,
y avait Yoko et Yodu.
Bien sûr.
Donc,
évidemment.
Ouais.
Mais c'est tellement bon, Maître Yodu.
Maître Yodu, tout à fait.
Bon, Yodu, justement, reçoit un roi de la salle dans RMC Running cette semaine. Bastien Augusto, double champion de France en titre sur 3000, donc en indoor. Bastien qui représentera la France au championnat d'Europe à Istanbul ce week-end. Il va nous raconter son histoire. La séance d'entraînement sera adaptée à son profil. La gestion de la souffrance pendant une compétition, parce que vous, les coureurs de 3000 ou de 1500, vous êtes complètement cinglés, vous adorez ça, les toxines, évidemment. Et puis on aura un bon plan matos, 5 paires de chaussettes de la marque La Chaussette de France, on en parlera avec Benoît Seguin, qui est le PDG de la marque. On n'oublie pas, évidemment, Yoann, les rappels importants, vous nous suivez sur les réseaux, Insta, Strava, Twitter, vous abonnez, vous laissez des notes sur les plateformes de téléchargement, vous laissez également vos messages, on l'a mis en place hein, à Yoann, via le 10 mois Yodu, je vais tout vous réexpliquer en fin d'épisode, et puis une belle surprise à vous annoncer cette
Encore
semaine.
Une.
RMC Running sera présent au Run Experience, le salon du running qui précède le Marathon de Paris. Venez nous rencontrer, venez participer, je vous en dis plus là aussi en fin de podcast. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on file en salle.
On va parler d'athlétisme maintenant.
Ses proches le disent, sa force, c'est son mental et sa faculté d'abnégation.
On commence par découvrir le parcours d'un sportif très prometteur, Bastien Augusto.
D'abord footballeur, puis cycliste, il développe des qualités d'endurance qui le mèneront vers l'athlétisme.
Gagner des parts après les inters, voilà, une saison pleine.
Ce prodige de la course à pied a entamé une ascension fulgurante.
Il essaye un peu par hasard la course à pied au club kilomètre 42 de Saint-Just-le-Martel où il réside à l'époque. Et c'est tout de suite une révélation.
Passé par les compagnons du devoir, il devient maçon et se retrouve meilleur apprenti de France au prix d'efforts et de sacrifices. Travailleur acharné, Bastien décroche sa première sélection en équipe de France fin 2019.
Sébastien Augusto en avait gardé sous le pied, il se fraye un passage à la corde. Augusto sera champion de France, c'était le plus fort aujourd'hui.
Et surtout pour les JO de Paris 2024, où il pourrait s'aligner sur 1500 ou 5000 mètres.
Moi j'aime me faire mal, j'aime souffrir.
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok?
On vous l'a dit que ce sont des mecs particuliers qui adorent souffrir. Il est donc avec nous, Bastien Augusto, double champion de France du 3000 en salle. Salut Bastien!
Salut, salut à tous.
Bon, comment ça va? Est-ce que c'est un bon résumé de ta personnalité, tout ce que tu viens d'entendre?
Et meilleur ouvrier de France,
bon
moi j'ai une salle de bain à refaire.
Ah ouais?
Voilà. S'il s'ennuie un jour.
Bah,
j'ai pas trop le temps en ce moment.
C'est l'avantage, ah, oui. Bastien, c'est que si tu cherches une reconversion, elle est toute trouvée. Quoi. T'as suivi les deux cursus,
voilà.
Donc voilà.
Exactement.
Tu peux retourner à la maçonnerie quand tu veux.
Exactement.
Vous vous connaissez,
j'ai
Yodu.
Pour
hein.
la suite.
Voilà, exactement. C'est une génération différente encore, mais vous vous êtes déjà rencontrés plusieurs fois. Hein.
Ah oui, oui, bah, on
oui,
se connaît.
Oui, plusieurs fois.
On a le même équipementier. Donc,
encore incroyable.
Toujours, donc on s'est rencontrés un peu comme ça, et puis après ben, c'est les stages en commun qu'on a fait à Font-Romeu et autres, et du coup on s'entend bien, on va souvent boire un café tous les deux, tous les après-midi à Font-Romeu vers 15h, c'est notre petit rituel. Voilà.
Et manger une pizza le dimanche.
Ah. Et le dimanche soir, c'est la pizza.
Ça fallait pas le dire, ça va pas, non? Bon, le petit plaisir de fond romeux. Bon, voilà, ça fait du bien. Première question toute simple. Bastien Augusto, est-ce que la valise pour Istanbul est prête?
Bah oui, tout à fait. Si j'étais un petit peu en retard, c'est que je viens d'aller la chercher à la fédération.
Ah, ça y est. Ah. Non, c'est bon. T'as les équipements, c'est le principal. Voilà. C'était l'objectif principal. C'est bon. Évidemment.
J'ai la dotation prêt à partir.
Ah, magnifique. Bastien, on démarre toujours RMC Running en posant cette même question. Pourquoi tu cours, Bastien Augusto?
Parce que c'est une passion depuis tout petit.
Tout simplement. Voilà, c'est clair, c'est efficace. Et en plus, tu cours vite, donc ça tombe bien. Allez, on attaque ton CV de coureur.
RMC.
Le CV de coureur.
T'as quel âge aujourd'hui, Bastien?
J'ai 23 ans.
Eh oui, encore jeune. Tu cours depuis que t'as quel âge alors?
18 ans.
Ah ouais, donc c'est pas, ça fait 5 ans de course à pied, c'est pas énorme, hein. On pourra en parler, c'est la particularité de ton profil. Tu cours combien de fois par semaine, Bastien?
Ça dépend des périodes, mais en période de tout au long de l'année, entre 10 et 12 fois semaine.
Ok, ça représente combien de kilomètres en moyenne là aussi?
Je dirais aux alentours de 130 à 140 de moyenne tout au long de l'année, après avec des périodes plus élevées sur les périodes de stage, mais sinon 140 en moyenne.
C'est beaucoup Yodu quand même, vu les distances qu'il parcourt.
Ouais, mais c'est justement, non, c'est ce qui explique sa palette large, hein. Il faut savoir que Bastien a couru 28-15 au 10 km et a fait 6e aux Europe de Cross en senior, donc... Pour faire ces performances-là, il faut aussi faire du volume kilométrique important. Et oui. Tout en sachant que bah, ça, c'est quelque chose qui ne lui fait pas perdre sa vitesse et sa base de coureur de 1500, quoi.
Justement, Bastien, est-ce que tu as des records perso dont tu es fier?
Celui du 3000 que je viens de réaliser cet hiver, 7,42.
7,42, c'est quoi l'allure sur 1000 alors? Au kilo, ça fait quelle allure?
De 34
au kilo trois fois, ouais. Voilà, ça, sans récup. Bon.
Bravo. Quelle est la dernière course que tu as disputée?
Le championnat de France de 3000 indoor.
Voilà, gagné évidemment, les doigts dans le nez. La prochaine sera les championnats d'Europe ce week-end, hein, c'est ça?
ouais, tout à fait.
Et puis, juste des questions sur tes entraînements. Quelle est ta séance préférée?
Ma séance préférée, je dirais 20 x 400 ou 8 à 10 x 1000.
Ah ouais,
ça pique. Ouais, ça pique. Et la séance que tu détestes?
J'en ai pas vraiment que je déteste au final. Le très court, la vitesse.
Ah quand même. Ah bah ça c'est surprenant. Ok. Vous l'avez compris, un profil particulier cette semaine dans RMC Running, Bastien Augusto. On le disait, parcours atypique parce que la course à pied, c'était pas ton premier sport. Toi, t'étais plutôt branché vélo quand t'étais jeune, hein, Bastien?
Tout à fait. J'ai commencé par du foot étant tout jeune et après, je me suis reconverti sur le vélo assez vite. Dû à mon parcours chez les compagnons pendant que j'apprenais mon métier, c'était compliqué de faire un sport co, donc du coup je faisais du vélo et je roulais en vélo.
Et oui, on l'a entendu tout à l'heure, mais à côté de ça, tu l'as dit, tu as eu une alternance chez les compagnons du devoir en maçonnerie, meilleur ouvrier de France. C'est quand même pas rien et c'est très chronophage, ça prenait énormément de temps, j'imagine.
Bah oui, ça prenait beaucoup de temps, c'est pour ça que c'était un peu compliqué le sport. Et du coup, quand j'ai acquis tous mes diplômes, c'est pour ça que j'ai mis un peu l'accent plus sur le sport et mis un peu de côté mon métier pour essayer de progresser dans le sport et m'amener là où je suis aujourd'hui.
Tu restes un passionné de ton métier. Je ne sais pas si y a un de tes proches qui a besoin d'une aide sur un chantier. Est-ce que tu vas filer un coup de main ou non, ça y est, t'es passé sportif de haut niveau à bloc?
Ça m'est arrivé. Là, j'ai acheté un appart, j'ai refait mon appart chez moi. Mais là, j'évite sur les périodes de compétition sur... Ouais. Plus les échéances arrivent, c'est de moins en moins, donc non, okay. J'évite maintenant.
Je te dis ça parce que fatigant. Durant une terrasse à refaire, ça t'intéresse pas, non?
Non, une salle de bain.
Une salle de bain, ouais,
il y en a beaucoup qui me demandent, mais c'est compliqué en ce moment.
Ouais, c'est sûr. Ah, tu peux venir faire un stage chez moi, d'ailleurs, j'ai quelques trucs à changer, vas-y, viens. Non. Ouais, ça c'est sûr. Donc, on l'a dit, tu t'es lancé dans la course à pied aussi pour cette raison, parce que c'est vrai que le vélo, c'est un sport individuel, mais qui prend là aussi beaucoup de temps. Donc finalement, la course à pied, c'était le meilleur sport pour toi, compte tenu du peu de temps que tu avais de disponible.
C'est ça, les journées de boulot, c'était des journées de 8h à 17h30, et l'hiver, il faisait nuit, donc c'était vraiment très compliqué de s'entraîner, et en vélo, il faut quand même beaucoup d'heures de selle pour être performant, et c'était pas assez avec mon métier, donc du coup, y a le club où j'habitais, ils m'avaient contacté, et vu comme je faisais pas de cyclocross l'hiver, ils m'ont dit bah, « pourquoi pas faire les crosses ?» Et ça m'a bien tenté, vu comme quand j'étais quand même à l'école, je faisais toujours les cross UNSS et tout ça, et ça me plaisait bien, j'étais performant. Donc je me suis lancé et puis j'ai été performant dès le début que j'ai commencé ma première saison de cross. Donc,
c'est ça, ouais.
Donc après, la transition s'est fait naturellement.
Ouais, parce qu'en 2018, tu remportes les cross départementaux en Haute-Vienne. Ensuite, tu te blesses. Une blessure que tu auras connue plusieurs fois, la fracture de fatigue. Et c'était où d'ailleurs, Bastien ?
Au niveau de la hanche.
Ah, au niveau de la hanche, d'accord, ok.
À chaque fois ?
Ouais, tout à fait. Bassin, hanche, ouais, à chaque fois. La première, voilà, quand j'ai commencé ma première année d'athlète, c'était en 2018, j'ai gagné mes départs et j'ai gagné mes régionaux devant Pierre Proust qui, justement, juste avant, avait fait les championnats d'Europe cadet ou junior, je ne sais plus, avec l'équipe de France. Et je l'avais battu lors des régionaux. Et malheureusement, je n'avais pas pu participer aux Inter et aux France de cross qui étaient à Plouay cette année-là. Et du coup, je n'avais pas pu participer. Je m'étais remis à cette période-là au vélo parce que je ne sentais rien au vélo. Et 6 mois après, à partir de septembre-octobre 2018, c'est là que je me suis vraiment mis qu'à la course à pied. J'ai tout arrêté le vélo et que je me suis consacré qu'à l'athlée.
Et après, tu t'es mis à préparer la fameuse corrida de Houy. On en a parlé, on a même fait gagner des dossards pour Houy.
Des dossards,
tout à fait.
3 mois de prépa sérieuse, pam, 30-34 sur 10 km. Allez, prenez
non,
ça.
Non,
c'est pas
30-05.
Ça. Ah, pardon, excuse-moi.
Ah, 30-05.
Tu vois que la seconde est importante hein, chez les coureurs de courte distance.
Mon premier 10 km officiel, 30-05 à Houy en junior.
Ah ouais. Bon, ça permet de déceler un certain potentiel, Yohan Durand, non ?
C'est ça. Sur ton premier, tu claques juste un petit 30. Tu te dis que tu es dans le bon sport, quoi. C'est normal quand on vient du vélo. Il y a beaucoup de coureurs qui sont bons cyclistes et inversement, ouais.
Ouais, enfin, le profil
d'un
cycliste,
faire ce chrono-là,
c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le profil d'un cycliste, c'est plutôt un mec endurant qui, à la rigueur, sur une distance un peu plus longue, peut être impressionnant.
Oui, oui.
Là, c'est la vitesse qui est bluffante. T'es quasiment à 20 km/h.
Junior encore, il devait avoir.
Ouais. Ouais. T'as été surpris du chrono, toi, Bastien ?
Non, pas plus que ça. Après, j'avais fait 30-40 un mois et demi avant, lors de l'Équidène, mais tout seul, du coup, de Paris,
ouais,
qui était au mois d'octobre, il me semble. Et j'avais loupé du coup les crosses de sélection pour les Europes de cross junior. J'étais complètement passé à travers. Et ça m'avait bien relancé ce 10 km. On va dire que ça a été un élan pour après la suite de ma carrière, ce premier 10 km.
Ouais, parce qu'ensuite, en 2019, je vois une médaille d'argent aux espoirs, en espoir aux France de cross. Hein, tu finis 13e au scratch.
Tout à fait.
Et c'est un moment.
Le premier France de cross.
Voilà.
Première médaille, tout à fait.
C'est un moment important parce que c'est là que tu rencontres celui qui est encore ton coach, Patrick Ribeiro.
Tout à fait, on s'est rencontrés juste après mon premier 10 km, à peu près au mois de janvier-février, donc un mois et demi, 2 mois après mon premier 10 km. Et du coup, il m'a coaché à partir de ce moment-là.
Toujours en 2019, tu te dis « je vais tenter les France également sur 10 000 à passer ». Là, c'est une course particulière et d'ailleurs, ça fait partie aussi de ton profil parce que tu décides de partir très fort et tu craques sur la fin malheureusement. Tu termines 3e, mais j'imagine avec pas mal de regrets. Quoi.
Oui, j'étais que espoir 1 à ce moment-là et j'avais voulu faire la course chez les grands, chez les seniors.
Chez
et
les grands.
J'étais passé un peu au travers, enfin la fin de course a été difficile et malheureusement ça m'a causé la sélection pour les championnats d'Europe sur 10 000. Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris. J'étais un coureur qui avait pas peur, voilà, qui était un peu euphorique en début de course à l'époque et j'ai
mais
appris
pas qu'à l'époque,
de ses erreurs.
Alors ouais. C'est ce que j'allais te dire. Ce que j'allais te dire, Bastien, quand j'ai appelé Johan avant l'épisode pour préparer un petit peu, je lui ai dit « qu'est-ce que tu peux me dire du profil de Bastien et tout ?» Il m'a dit « c'est simple, Bastien il fait partie de cette génération qui a peur de rien. » C'est ça Yodu en fait, c'est mecs
ça.
Qui vont à fond
ouais,
tout
ouais.
le temps. Voilà.
C'est ça, c'est une génération de jeunes qui un peu insouciants, ouais, qui a peur de rien et qui n'hésite pas à partir... au carton d'entrée et ça passe ou ça casse. Des fois ça casse, mais quand ça passe, ça fait des chronos monstrueux.
Et ouais.
Donc ils ont la fougue, ils ont peur de pas grand chose et c'est bien. Hein.
Ouais, exactement. Et Bastien, il y a un changement important dans ta vie. C'est cette année 2020. Déjà elle est marquée par le Covid, donc c'est une année qui a compté pour tout le monde, qui a été particulière. Nouvelle fracture de fatigue. Et puis il y a quand même un choix de vie personnelle. Tu quittes Limoges, là où tu vivais, pour aller à Bourges et retrouver ton coach, on le disait, donc Patrick Ribeiro. Tu quittes également ton emploi, tu étais agent de maintenance et tu reprends la maçonnerie-menuiserie. Voilà, ça c'est un vrai choix de vie, quoi. Ça y est, tu te tournes
tout
vraiment vers le sport, quoi. Ça y est, c'était le moment charnière, quoi, finalement.
Tout à fait. Ben, à la fin du Covid, du coup, au mois à l'été, j'ai décidé de rejoindre mon coach au quotidien sur Bourges, parce que voilà, j'allais passer Espoir 2, Espoir 3, c'est des années quand même de transition pour chez les grands, c'est des années charnières, et je voulais vraiment être performant dans cette année Espoir 3, en sachant qu'il y avait quand même des gros championnats chez les Espoirs, en sachant les championnats d'Europe Espoir et de Cross, et je voulais vraiment réussir ces séances, et du coup j'ai fait le choix de voilà, quitter Limoges et de me rapprocher d'un groupe d'entraînement et surtout de mon coach au quotidien pour être performant, et du coup le choix a été payant par la suite.
Ah, puis je pense surtout qu'il n'y a rien de pire que de vivre à Limoges.
Ça va.
Sinon, ça va. Ah, Bourges, c'est plus sympa. Bourges, c'est sympa. Du coup, il y a le printemps de Bourges.
Ça se ressemble. Ça se ressemble.
Ah, bon, ça va. Il n'y a pas une grosse différence alors.
Non, il n'y a pas de grosse différence.
Je parlais de moments importants pour toi dans ta vie d'homme et dans ta carrière. Il y a surtout cette décision en 2021. Tu rejoins l'armée. Et là, ça y est. Là, tu es rémunéré. Tu es détaché à ton sport. Et bah évidemment, vous vous en doutez, mais là tout de suite les chronos s'en ressentent, Bastien. Là il y a une vraie progression chez toi. Hein.
Bah oui, ça a vraiment été la transition dès que j'ai pu arrêter mon boulot, parce que quand j'ai fait le choix de quitter Limoges pour aller à Bourges, forcément j'ai dû prendre un appartement tout seul et tout, donc il fallait que je travaille à côté pour vivre.
Tu l'as construit
donc,
toi-même?
Je travaillais. Non, pas encore. Du coup, il me fallait un salaire pour vivre, mais je travaillais 4 jours sur 5 pour quand même avoir un jour pour m'entraîner un peu plus. Mais bon, c'était quand même des journées longues, donc c'était compliqué. Mais dès que j'ai eu cette opportunité de rentrer à l'armée, ça a vraiment été un déclic. J'ai pu me mettre à 100% et les chronos et les perfs sont sortis.
Ah oui, là ça va parler à Yodu. Je vois un 3,38 sur 1500, ce qui t'ouvre les portes des grands meetings. Carrière lancée, 3,38 c'est très solide, Yodu.
Ah bah surtout dans les catégories Espoir 3 ou même début senior, hein, c'est des chronos qui vous ouvrent les portes des bons meetings et qui après vous ouvrent les portes des championnats d'Europe. Après, pour aller sur des mondiaux, c'est plus 3,35 et des JO plus 3,33. Mais ça ouvre déjà en espoir. Ça veut dire que voilà, il est sur la bonne voie pour dans sa logique de progression. Hein.
Ben ouais, exactement. Et puis, je vois aussi ce... Alors, vous allez m'expliquer, tu m'as déjà expliqué un peu. Je crois qu'on avait parlé avec Yann Schrub, Yodu, mais je vois un match, ce qu'on appelle un match sur 5 km. Ça aussi, c'était un moment important pour toi, le 27 juin de cette année 2021, Bastien. Parce que tu fais quatrième, en fait, sur ce fameux match. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu termines quatrième après une magnifique remontada. Et surtout, les trois mecs devant toi sont trois mecs qui vont partir aux Jeux de Tokyo. Donc là, une nouvelle fois... ça te permet de prendre conscience de ton vrai potentiel, en fait.
C'était pas un match, c'était lors des championnats de France.
Ah, c'était les France, élite. D'accord, je crois que c'était un match. D'accord.
J'étais espoir et c'était lors des championnats de France élite.
Qu'est-ce qu'on appelle un match, alors? C'est quoi, alors, les gars?
Un match, c'est une sélection avec une compétition entre plusieurs pays. Tu peux avoir 4, 5 pays et c'est une compétition comme ça qui compte aussi. Ça compte comme une sélection, je crois. Mais il n'y a pas de médaille, c'est pas un championnat, c'est juste une compétition organisée entre plusieurs pays pour. Comme ça, quoi, pour matcher.
Ok. Et du coup, là, c'est une vraie révélation pour toi, Bastien, ce jour-là?
On va dire que oui, parce que quand j'ai fait 3,38, c'était ma première saison sur 1500 mètres. J'avais jamais fait de 1500 mètres auparavant. C'était ma première sélection aussi chez les jeunes sur piste, sur 1500. Alors que je pensais plutôt être un coureur de 5000, voire 10 000, plus long. Mais cette année-là, on s'est vraiment concentré sur le 15 et ça a marché. J'ai réussi à faire 3,38 et du coup 4e au championnat de France élite. Et du coup, ce qui a été révélateur, c'est que j'étais surtout un coureur de championnat avec un gros finish. Et du coup, c'est surtout ça qui nous a permis de travailler pour la suite et de trouver une discipline. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne savait pas trop sur quoi s'orienter parce que j'avais des capacités sur court, mais à la fois aussi des capacités pour monter sur plus long. Et du coup, on ne savait pas trop, mais là, cet hiver, ça a vraiment été un déclic, le 3000, et du coup, on sait vers quoi s'orienter maintenant.
Eh ouais, voilà, c'est aussi la difficulté d'un athlète comme Bastien, c'est de se fixer sur les bonnes distances, Yodu.
Parce que c'est beaucoup, la difficulté.
Et comment tu fais d'ailleurs? Parce que tu t'adaptes à la concurrence, tu fais vraiment en fonction de tes propres qualités. Comment ça se passe d'ailleurs?
C'est difficile parce que tu vois, dans le discours de Bastien, je me retrouve un peu parce que moi, j'étais écrit coureur de 5000. Sur le papier, j'étais coureur de 5000. Je m'entraînais formé comme un coureur de 5000 et mes meilleures performances, je les ai fait sur 1500 en étant vice-champion d'Europe du 1500, vice-champion de France en senior. Et c'est bizarre, hein, des fois on est dans une case, mais au final on est athlète et on est tellement complet qu'on peut avoir une grosse... Le 1500, c'est simple, hein, si t'es intelligent, si t'arrives à avoir une tactique de course et que t'as un dernier coup de kick, un dernier 200, si tu le mets au bon moment, si tu vois, si ton attaque tu la places intelligemment, si t'es bien placé pendant toute la course, tu peux rivaliser avec des mecs plus forts que toi. Alors que sur 5000, 10000, généralement c'est le plus fort qui gagne. Sur 1500 et encore plus vrai sur 800 mètres, ça va être le plus intelligent presque qui va gagner.
C'est ça.
Et donc du coup, ouais, nous, je me situe un peu comme Bastien, coureur de 3000, 5000. Donc j'étais bon sur 10 et j'étais aussi bon sur 1500. Et donc c'est difficile, je pense qu'il faut... Ça va dépendre des années, ça va dépendre de son envie mentale. Tu vois, des fois, tu en as marre de faire du 5000, bah, tu redescends sur du court, c'est un peu plus jouissif. Tu prends plus de plaisir des fois dans les séances SP15. Et puis après, bah, quand t'en as marre de faire du lactique, tu repars sur le long. Ça peut être des idées de carrière comme ça pendant 2-3 ans. Ça peut se construire comme ça, ouais.
Quelle est ta réflexion, Bastien, là ? Est-ce que tu es uniquement tourné vers Paris 2024 ? Est-ce que tu prends plus de plaisir sur une distance que sur une autre ? T'es comment, là, psychologiquement ?
Non, moi, j'aime bien... Enfin, je prends du plaisir sur toutes les distances, que ce soit du cross, du 10 km route, ou du 1500, ou du 5000. Mm-hmm. Ce que j'aime bien, c'est que, justement, je ne suis pas buté, comme beaucoup de coureurs, sur une distance, comme les coureurs de 1500. Ils ne courent pas quasiment pas l'hiver, et ils font que du 15 l'été. Moi, j'ai quand même ce panel de choix qui fait qu'au final, j'ai pas de lassement de distance ou autre. Et j'arrive à m'y retrouver l'hiver à faire voilà, du cross, du 10 km. Ça fait quand même la caisse pour l'été se retrouver sur du plus court.
Ouais.
Donc non, je trouve que c'est des distances qui sont quand même complémentaires. Donc non, voilà, ça me permet de pas me lasser et de faire un peu de tout. Mais c'est sûr que là, il faut que je sois un peu plus ciblé si je veux réussir à faire des gros championnats maintenant. Mais Paris 2024 arrive à grands pas.
Ah ouais.
Jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, même il y a 2-3 mois en arrière, pour moi, c'était un rêve, mais entre guillemets lointain, parce que tout le monde parle des jeux, mais il ne faut pas se leurrer. Il y en a très peu qui y participeront. Les minima et les niveaux d'exigence maintenant sont tellement élevés que ça devient très compliqué. Et voilà, il faut quand même avoir dans la tête des objectifs à long terme. Donc, dans la tête, c'était Paris 2024, mais depuis... Là, on va dire depuis un mois, vraiment, l'objectif, c'est vraiment Paris 2024 et c'est un objectif qui peut être réalisable.
Sur quelle distance alors, Bastien ?
Sur 5000, je dirais.
Ouais.
Au vu de ce que je viens de réaliser cet hiver, je pense que 13-10, c'est abordable dès cet été.
Ah
donc,
ouais.
Au vu de ça, ça laisse quand même envisager Paris 2024 et les championnats du monde à Budapest cet été. Mais avant ça, j'aurais dit que c'était un rêve, mais... et un objectif lointain, mais là, c'est plus que réalisable, donc c'est vraiment l'objectif prioritaire.
Ça t'obsède ? Du coup, tu y penses tous les jours ?
Non, parce que jusqu'à il y a encore 3 semaines à moi, je ne pensais pas réaliser l'hiver que je suis en train de réaliser. Les chronos que je viens de réaliser, on ne pensait pas du tout les faire si tôt. Si je faisais 7,50, 7,48 au mieux cet hiver, on aurait été vraiment très contents. Mais de courir 7,42 avec, je pense, une marge par rapport aux courses que j'ai faites, en prenant quand même les devants et en étant à la bataille devant et pas à faire de course d'attente, je pense que j'avais 7,39, 7,40 dans les jambes cet hiver. Donc ça laisse présager de belles choses pour cet été, surtout que j'ai pas fait vraiment de séance spécifique. Je suis rentré du Kenya et j'ai couru direct. Et donc même au Kenya, j'ai pas fait un 1000 en 2,40. C'est impossible de faire ça. Donc au final, on n'a pas vraiment travaillé d'allure spécifique. Donc vraiment qu'avec la caisse et le volume d'entraînement, j'ai réussi à faire ces chronos-là. Donc c'est vrai que... Je suis passé sur un stade au-dessus, je pense, cet hiver, et du coup, ça laisse présager de belles choses pour cet été.
Oui, c'est dans toutes les données que tu entends, Yodu, là, c'est hyper encourageant, en fait, parce que sans réel travail spécifique, tu arrives à obtenir des... à obtenir des chronos très intéressants, quoi.
Bah ça, il n'y a que lui et son... Nous, quand on regarde des résultats, on voit que le résultat écrit, tu vois, on voit qu'il a fait 7,42, mais on ne sait pas le chemin qu'il a emprunté. Lui et son coach, ils savent que, justement, ils ont fait cette performance... sans l'avoir maximisé, sans avoir mis tout son potentiel à 100%. Donc évidemment que bah, du coup, ça les encourage à faire des chronos encore plus forts et se dire, bah, voilà, si j'avais fait encore, si je m'étais préparé peut-être de façon différente, si j'en avais fait un objectif, et comme il le dit, il aurait pu courir 7.38. Donc c'est sûr que quand tu cours moins de 7.40 en salle, tu peux envisager 13.10 au 5000 l'été suivant. Sans aucun problème. Hein.
Parce que je l'ai dit avec un sourire, mais les championnats de France en salle à Aubière, t'es champion de France du 3000, j'ai dit les doigts dans le nez, mais t'avais une belle marche, quoi. T'as décidé de l'accélérer à 120 mètres de l'arrivée et personne n'a pu te suivre, en fait, Bastien, objectivement.
J'avais une marge, oui, sur le papier, mais pour moi, dans la tête, c'était la course la plus difficile à gagner de l'hiver.
Ah ouais ?
Parce que ça faisait 3 semaines que j'étais rentré du Kenya, j'étais un peu dans le trou de l'altitude et j'étais malade la semaine des France Élite. J'avais une angine. Donc j'étais quand même sûr de ma force, mais en faisant attention. Et quand on regarde ma course, quand on ne sait pas que je suis malade, c'est sûr qu'on va dire qu'aller gérer à la perfection tactiquement. Quand je suis passé devant, à partir du 1500, quand je suis passé devant, j'étais pas tranchant comme j'aurais dû l'être avec les consignes du coach. Du coup, c'est pour ça que je me suis remis derrière au dernier 600 mètres pour vraiment jouer sur ma qualité première, mettre un kick dernier 150. Et c'est pour ça. Mais sinon, la tactique, c'était de passer devant à partir de 1000 mètres et vraiment faire très mal et tirer, faire un gros 1000. Et j'étais pas capable de faire ça ce jour-là parce que j'avais pas des sensations folles. Ce jour-là, j'aurais pas fait un gros chrono comme j'aurais pu l'avoir fait une semaine avant. Mais il faut savoir aussi être performant quand on est moins bien et du coup j'ai su le faire. Et là je sens que la forme est bien remontée cette semaine et donc j'arrive en pleine confiance pour ces championnats d'Europe.
Ouais, on va en parler dans un instant, mais je trouve ça très télégénique, Yodu, les championnats en salle, parce que la piste est beaucoup plus petite.
La piste.
Ça doit être dur pour vous parce que les repères sont complètement différents.
Les virages sont relevés. Donc,
est-ce que ça gère différemment?
Ah bah complètement, parce que bah il faut pas, par exemple, il vaut mieux pas doubler en virage puisque tu vas monter, tu vas devoir faire un effort supplémentaire, ou alors en fin de virage pour pouvoir après bénéficier de la descente pour relancer. Donc non, ça se gère de façon différente, ça se court de façon différente.
C'est un plaisir, c'est mieux, c'est plus agréable,
parce que
t'as
la sensation de vitesse, ouais. T'as aucun élément extérieur, donc il y a pas de vent, pas le soleil qui te tape dessus ou la pluie. Là, t'as les conditions optimales. Mais après, c'est la sensation de vitesse, ouais, parce que comme je te dis, avec ces virages relevés et incurvés, bah des fois tu peux prendre vraiment beaucoup de vitesse si tu mets une attaque. Donc c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est un jeu. T'as l'impression d'être sur un petit anneau de trucs et de tourner comme un hamster.
Du cyclisme sur piste un peu.
Ouais, c'est ça. Ouais,
piste incurvée. Ouais, c'est vrai. C'est
et tu perds tes repères parce que tu te dis c'est la dernière ligne droite, mais en final la dernière ligne droite elle fait 50 mètres, hein,
parce que
pas 100 mètres.
Bah oui, c'est ça. Bastien, ça fait partie de tes meilleurs souvenirs, la salle, donc t'as une relation particulière avec ce type de course, en fait.
J'aime bien tout ce qui est course à la bagarre, et en salle c'est un peu ce qui se passe.
Ça bouscule.
Il y a le placement qui compte énormément, et c'est ce qui me plaisait aussi sur 1500, c'est que là c'est une bataille d'homme à homme, ça se bouscule, ça y va, il y a du placement, il y a... C'est pas une course où t'attends.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà, c'est ça. C'est pas, il faut pas attendre 5-6 tours pour que la course se lance. Là, c'est d'entrée, il faut y aller. Il y a pas de calcul au final. T'y vas. Que tu sois devant c'est même mieux d'être devant en salle parce que t'as pas le vent et au final t'es pas bousculé, t'es pas gêné. Donc c'est l'avantage de la salle. Et la salle réussit à des coureurs comme ça ne réussit pas à d'autres. Donc ça me réussit. J'aime bien ça. Donc, et je trouve que c'est complémentaire pour l'été parce que ça fait garder un peu de repère de vitesse.
Les petits gabarits un peu puissants sont avantagés par rapport à des grands,
à
des grands gabarits. Ouais.
C'est des courses de maçons.
Voilà.
C'est ça l'histoire. Juste parce que tu me parlais de prépa spécifique que tu n'as pas encore fait pour le 3000. C'est quoi une prépa spécifique de 3000, les gars? C'est quoi les séances? C'est que du fractio? C'est quoi?
Non, c'est des spés, c'est un travail plus de spécifique, travailler l'allure spécifique, je sais pas, par exemple 3 fois, 4 fois 1000 à l'allure course, ou je sais pas, ou faire des 1002, mais vraiment un enchaînement, mais travailler vraiment l'allure spécifique.
Récup pincé et travail d'allure spécifique.
Par exemple, ouais.
C'est ça, Yodu?
Oui, non, complètement, ouais, c'est travailler à l'allure spé. Après, récup pincé, ça dépend de vraiment la période où on est et ce qu'on veut travailler. Mais généralement, ouais, c'est ça, c'est commencer à courir à 2.35. Pour un mec comme Bastien, c'est courir à 2.35. Donc, faut savoir qu'on est presque à 100% de VMA, quoi. C'est-à-dire que c'est, malgré tout, tu fais des distances longues, donc 1000 mètres, mais à 98, 100% de ta VMA, donc c'est pas du tout comme une séance classique de 15 x 400, tu vois, où on est pareil sur les mêmes allures, mais qui est avec des intervalles. Là, c'est vraiment sur des 1000 mètres, et puis 3-4 fois répété comme ça, ouais. Plus après, bah, un peu de spécifique où tu vas travailler la vitesse, la fin de course, pour pouvoir être bon aussi en championnat. C'est des choses à travailler, ouais.
Le thème de la souffrance est bien choisi aujourd'hui, quoi.
Exactement.
C'est ça le truc. Okay.
Exactement.
Et juste un mot par rapport au week-end qui t'attend, Bastien, parce que lorsque la communauté RMC Running va t'écouter, soit tu seras en train de courir, soit tu auras couru. Le niveau européen, tu peux viser quoi ce week-end, à ton avis, Bastien ?
Moi, l'objectif, c'est de me qualifier en finale. Et si je suis en finale, je me mets aucune limite. Voilà. Je pars pour faire une médaille, et puis on verra.
Mais
l'objectif, c'est d'aller en finale. Et si je suis en finale, il n'y a pas de... Je veux faire finaliste et j'y vais pour faire le mieux possible et pourquoi pas faire une médaille. Donc on verra, mais le premier objectif, c'est de se qualifier en finale.
Comment ça se passe ? C'est série le samedi et course le dimanche ?
Ouais, série le samedi matin à 10h et finale le dimanche à 20h.
Ok, donc ça laisse le temps de récupérer. C'est toujours délicat, Yodu. Je t'ai jamais demandé.
Ah, c'est pas facile. Ouais.
Parce que comment tu gères ?
C'est-à-dire
que
c'est pas du 15.
Eh oui.
C'est pas un enchaînement de 1500 mètres, c'est un enchaînement de 3000. Donc.
Eh ouais.
Il faut quand même avoir de la caisse. C'est nouveau. Ça sera nouveau. J'ai déjà enchaîné du 1500, mais enchaîner 2-3000 comme ça, j'ai jamais fait. Donc.
D'accord.
Généralement, les coureurs de 5000. Alors, ça dépend comment se court le 3000, parce qu'il y a plusieurs façons de le courir. Si c'est un 3000. Qui se court régulier, bah, c'est presque mieux. Franchement, des fois, c'est presque mieux qu'un 3000 qui se court juste un dernier 1000 à fond et où vraiment vous finissez les cuisses engorgées d'acide et du coup tout toxiné et c'est plus compliqué à récupérer.
Bah ouais.
Faut voir comment se passent les séries. Mais voilà, des fois, c'est simple. Vous êtes en série 2, vous savez que autant vous faites 7e, vous pouvez passer autant. Bah, vous vous en gardez sous le pied et puis vous êtes frais pour la finale du lendemain. Mais quand tu enchaînes comme ça 2-3 000, ouais, les coureurs de long seront plus avantagés que les coureurs de 1500.
Et parce que c'est du calcul, il faut terminer dans les 3-4 premiers de ta série pour être en finale, c'est quelque chose comme ça.
J'ai pas encore les modalités, mais pense que ça sera 4 plus 4 ou 5 plus 2.
C'est sympa d'apprendre tout au dernier moment.
Ah, mais c'est
vrai. J'en peux plus de vos sports, moi. Franchement, c'est terrible. Mais être un champion en athlétisme, quel enfer pour connaître les règlements, les trucs et tout. Tu sais pas à quoi t'attendre.
Tu sais pas dans quel. T'apprends tes séries. T'apprends la série la veille. Donc là, on te dit t'es en série 1, série 2. Tu vois tes concurrents. Et puis après, t'apprends la méthode de sélection. Ouais.
Et puis juste un dernier mot, un peu hors contexte, mais c'est vrai que ça sera peut-être un climat particulier. Bastien, je ne sais pas si tu t'y prépares, mais la Turquie a vécu un drame phénoménal, puisqu'avec le séisme, ça a tué plus de 50 000 personnes entre la Turquie et la Syrie. On a vu ce qui s'est passé sur les stades de foot, notamment au Beşiktaş à Istanbul, avec ce jeté de peluche. Il y aura un contexte assez lourd, assez pesant, et à mon avis, ce sera un moment marquant que tu vas vivre. Est-ce que ça aussi, tu t'y prépares ou tu n'en tiens pas forcément compte pour ta compétition ?
Non, là, j'en tiens pas spécialement compte parce que c'est vrai que je me concentre surtout sur moi et sur ma performance que j'essaye de réaliser là-bas. Mais c'est sûr qu'après, sur le moment, peut-être qu'on aura un regard extérieur sur ça, mais là, j'y pense pas spécialement.
Il faut se mettre dans sa bulle, quoi. C'est ça qui est peut-être compliqué dans ces moments-là.
Exactement.
Ouais, c'est sûr. Allez, passons à la séance.
RMC.
La séance.
Eh oui, on le disait, ce sont des distances synonymes de souffrance, Yoann Durand. 1500, 3000, des jambes gorgées de lactique, tu nous l'as dit. Faut apprendre à contrôler et gérer cette fameuse douleur. Alors tu vas nous donner les clés pour y parvenir, mon petit Yodu. Et déjà, est-ce qu'on peut dire que le premier travail est psychologique ? Il faut être prêt psychologiquement à dépasser ce sentiment de douleur. Est-ce qu'il faut forcer le mental à accepter la souffrance ?
Ouais. Alors après, on fait un sport où le rapport de la performance et du plaisir, en fait, il va être lié à la souffrance parce qu'on fait un sport individuel. C'est pas un sport collectif, tu vois. On joue pas. Je le dis souvent ça, mais on joue pas à l'athlé. Ouais. On joue au foot, on joue au tennis. On est content quand on marque un but. On est content quand on fait un bon service ou qu'on gagne un set. Mais en athlé, nous, on n'a pas ça. Pour trouver notre plaisir dans la course, en fait, il va être dans la performance et le dépassement de soi, en gros. Et donc, du coup, on trouve malgré tout du plaisir dans la souffrance. Et ça, c'est lié, tu sais, aux endorphines et tout ça, qui sont libérées par notre cerveau. Et qui font qu'on a ce sentiment de plaisir dans la pratique sportive. Donc du coup, ouais, on va au carton. Et alors, c'est là où c'est difficile de se dire est-ce qu'un coureur de 100 mètres souffre moins qu'un coureur de 1500 ou un coureur de marathonien. C'est le degré un peu qu'on va y mettre. Mais c'est vrai que le travail spécifique du coureur de 1500 mètres, il est assez dur parce que justement, comme tu l'as dit, il faut aller au carton, il faut aimer se faire mal, il faut avoir cette folie de tout le temps vouloir rajouter et être nos limites. Tu vois, alors qu'un marathonien, il faut être intelligent. Un marathonien, si tu cours de cette façon-là, tu vas droit dans le mur. Un coureur de 1500, il peut se permettre de tous les jours aller se massacrer à l'entraînement et finir ses entraînements complètement vidés. Ouais.
Après, là où ceux qui préparent des semis ou des marathons peuvent nous rejoindre et comprendre un peu ces sentiments, c'est forcément sur les séances de fractionnés, les séances difficiles, que ce soit de la VMA courte ou alors du seuil. Ce qui est dur, je trouve, quand tu es... Vous êtes athlète de haut niveau, donc vous avez cette gestion qui est parfaite, mais ce qui est difficile pour un coureur amateur, c'est de gérer la difficulté et de conserver malgré tout un relâchement. Parce que c'est vrai que quand tu es sur une séance sur piste peu difficile et tout, tu as tendance à te crisper, ce qui rend la séance encore plus difficile. Et c'est très dur de trouver le juste milieu entre relâchement et crispation, quoi, tu vois.
Ben justement, ouais, c'est ça, c'est trouver le juste milieu entre la souffrance et le fait de se faire mal à l'entraînement et le relâchement qui va nous permettre de certainement, en plus, des fois, quelquefois, il suffit simplement de se relâcher pour faire des fois un meilleur chrono que quand on essaye de le faire en étant crispé.
Ça, c'est fou. Hein,
et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais. Kipchoge, à titre d'exemple, est un mec, en termes de relâchement, c'est le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est Eliud Kipchoge.
Ah, ouais.
T'as jamais l'impression qu'il souffre. Et pourtant, intérieurement, il doit bouillir, il doit être comme nous. Mais il explique très bien que quand il court et qu'il sourit, eh ben, quelque part, ça lui permet de se relâcher. Et de dire à son cerveau qu'en fait c'est facile, mais ça l'est pas du tout au fond. Mais d'avoir essayé, et ça, c'est important d'avoir un coach sur le terrain pour vous dire relâchez-vous, baissez vos épaules, te crispe pas, ne va pas chercher trop loin, augmente la cadence pour essayer de trouver ce relâchement pour amener une bonne performance. Ouais.
Ce fameux précepte souriez, ça aide à respirer, tu vois.
Ouais, c'est ça. Souriez, ça aide à respirer, exactement, ouais, ça vient de là. Et t'as été très bon ce jour-là quand t'as trouvé ça.
Bien sûr. C'était inspiré par Eliud. Hein. C'est lui qui avait lancé la saison 2 d'RMC Running. Ça. L'épisode est retrouvé d'ailleurs, si ça vous intéresse.
Ouais. Donc, la douleur, après, elle appartient à chacun.
Hein. Non, mais alors, elle appartient à chacun. Elle arrive forcément à un moment donné, quelle que soit la distance, quand on est en compétition. Est-ce que, les gars, vous avez des petits conseils? On avait parlé avec différents athlètes. J'avais entendu chez des athlètes féminines que certaines, rappelle-toi, comptaient jusqu'à 100 pour penser à autre chose. Est-ce que t'as des petits tips comme ça que tu peux nous donner, Yodu? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu souffres sur une course?
Il faut essayer de se relâcher, de penser, d'avoir des pensées, de penser un petit peu à autre chose. Alors ça, c'est pour le marathon, tu vois, sur le 1500, t'as pas le temps de penser à autre chose parce que la course, elle est finie. Une fois que si à 300 mètres de l'arrivée, tu te mets à penser à autre chose, c'est pas bon. Mais sur un marathon, sur des distances comme ça, essayer de se concentrer sur sa foulée ou sur sa respiration ou peut-être même des fois ralentir de 1 à 2 secondes au kilo pour justement récupérer d'un point de vue cardio et d'un point de vue musculaire pour après pouvoir relancer. Ça peut être intéressant quand on sent qu'on a la frontière entre elle est limite, hein, c'est pareil dans l'entraînement, entre l'entraînement et le surentraînement, entre la bonne douleur et la blessure, la frontière est très limite. Et donc du coup, ça, faut se connaître, c'est un peu l'expérience. Et on peut basculer du bon ou du mauvais côté bêtement, quoi.
Bah ouais, exactement. Bah écoute, plein de bons conseils qu'il faut appliquer lorsque vous êtes dans le dur. Vous pensez à Yodu, voilà, vous serrez les dents et vous vous relâchez surtout. Et puis souriez.
Ouais, voilà, vous serrez les dents et vous souriez. Non, mais essayez de vous relâcher.
Exactement.
Alors voilà, il y a des séances où il faut aller au carton. Des séances de 1500, 3000. Quand on veut faire du spé ou du fractionné, là, faut pas hésiter, faut y aller. Et il y a des séances où il faut être intelligent et où il faut essayer de plus aller chercher le relâchement. Et vous allez vraiment plus progresser en étant relâché et en courant proprement qu'en étant crispé et en ayant une foulée saccadée, quoi.
Allez, passons au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Alors, c'est un indispensable de la course à pied, souvent négligé, pourtant tellement important, la chaussette. Et oui, une chaussette de bonne qualité, importante dans votre pratique régulière, des belles chaussettes. On a convoqué un spécialiste, c'est Benoît Seguin, le PDG de la Chaussette de France. Bonjour Benoît.
Bonjour à tous.
Bienvenue, beau prénom, je vous félicite. Alors, comme son nom l'indique, la Chaussette de France est fabriquée en France, c'est l'atout majeur, j'imagine déjà.
Exactement, nous on est en fait fabricant de chaussettes depuis 1961, on est l'un des derniers fabricants de chaussettes en France. On a su braver un petit peu cette crise qu'a connue le textile en France début des années 2000. Et puis on a lancé donc effectivement notre marque, la Chaussette de France, il y a 10 ans. Et donc on fait des super produits fabriqués dans notre usine à Troyes par une cinquantaine de salariés. Et on est très fiers de, que déjà tout le monde adhère aux produits, puis que on grandit doucement mais sûrement, mais on est super contents.
Quelles sont les qualités d'une bonne paire de chaussettes, Benoît, alors ?
Alors, les qualités d'une bonne paire de chaussettes, déjà, c'est la qualité de tricotage. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais en fait, on utilise des machines dernière génération qui nous permet d'avoir vraiment des chaussettes très précises, très bootfitées sur le, très précises sur le pied. Et puis, associé à cette technologie de tricotage, on utilise des matières soit très technique, soit très naturel, mais en grande quantité. Donc, par exemple, pour le running, on utilise, par exemple, un fil qui s'appelle le Friction Free, qui est anti-ampoule. On utilise du Drytex ou du Coolmax, qui évacue la transpiration, donc qui permet, en tout cas, de pas à la chaussette d'évacuer l'humidité du pied. On utilise des fils donc qui évitent les ampoules. On a vraiment une gamme très développée, une large gamme qui nous permet, en fait, en l'occurrence, il y a des gens qui aiment plus, on a des renforts talons pointe, pour ceux qui font un peu plus de travail et qui font un peu plus de dénivelé.
Ah, c'est bien.
Donc c'est une chaussette qui est un peu plus... Pardon ?
C'est adapté à chaque coureur, à chaque profil. C'est bien.
Exactement. Donc, pour ceux qui on fait des chaussettes pour les gens qui courent le dimanche 5, 7, 10, 15 km. Il y en a, on a beaucoup d'ambassadeurs qui courent des courses comme l'UTMB ou le marathon du Mont-Blanc. Donc, ça commence à taquiner sévère. Ouais. Et puis, on essaie de mettre en avant le savoir-faire français. Et puis, sur des produits avec vraiment de la valeur ajoutée. Et puis, à des prix qu'on essaie le plus accessible possible.
Alors, justement, la gamme de prix, c'est quoi, Benoît?
Alors, la gamme de prix, pour une chaussette de running, c'est entre 14 et 20 euros la paire. Ouais, et puis, sur le trail, on va jusqu'à 25, puisque c'est surtout des mi-chaussettes, des chaussettes qui arrivent à mi-mollet avec un petit peu plus de matière, etc. Mais on est entre 14 et 25 euros.
Magnifique produit, en tout cas. Allez sur les sites, la Chaussette de France. Benoît, merci d'avoir été avec nous. Je précise qu'on fait gagner 5 paires de Népal gris-blanc. Voilà, la Chaussette de France.
Super.
Pour tenter votre chance, comme d'habitude, vous laissez votre adresse mail sur nos différents réseaux sociaux et vous vous offrez un beau cadeau, quelle que soit la pointure. Merci Benoît. Je rappelle le 10 moyeux du. Si vous voulez nous laisser un message cette semaine, vous appelez le 3216 tous 0. On rappelle le concept, on renforce l'esprit de communauté. Vous venez interpeller Johan sur le sujet de votre choix. Et puis, annonce importante, je le disais, RMC Running quitte son studio et viens à votre rencontre. Nous serons présents au salon du Run Experience à Paris, Porte de Versailles, le jeudi 30 mars dans l'après-midi. C'est le salon qui précède le Marathon de Paris. Podcast en direct depuis le stand d'ASICS, partenaire principal, partenaire de Bastien Augusto et Johan Durand, s'il vous plaît. Il y aura de nombreux intervenants prévus, beaucoup de surprises, du testing produit, l'occasion également d'intervenir avec nous sur le podcast, donc régalez-vous si vous êtes intéressé. Dites-nous, confirmez votre présence sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter notamment. Merci Bastien d'avoir été avec nous, c'est très sympa. Bonne chance pour ce week-end à Istanbul.
Merci à vous, à très bientôt.
Voilà, on espère que tu vas cartonner et on a choisi une musique pour toi, évidemment, toi qui es fan de rap français. Voilà, on va terminer avec la kiffance. Merci. De Naps. Voilà.
Merci beaucoup.
Il m'a kiffé.
C'était ça le choix, c'était ça. Bon, merci Bastien, merci beaucoup, bon courage pour ce week-end. Merci à toi Yodu aussi. Et puis toujours ce même conseil quand on termine. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Je vais faire un tour, je suis sans casque en 125.
RMC Running.